Bonjour Xavier Ursa.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif d'EDF, en charge des nouveaux projets. Vous êtes aussi le président du GIFEN, c'est le syndicat professionnel de la filière nucléaire. C'est la première fois qu'EDF prend la parole depuis l'annonce la semaine dernière du plan d'investissement pour 2030. Le nucléaire est au centre de ce plan. Le président de la République parle même d'une filière d'avenir. Ce n'était pas gagné. Xavier Ursa, vous êtes rassuré ?
Nous sommes sereins et je dirais que nous n'avons jamais douté du côté d'EDF que le nucléaire était une énergie d'avenir. Ça fait plusieurs années que nous expliquons que pour aller vers moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est tout à fait fondamental dans le cadre de la lutte pour le changement climatique, il nous faut du nucléaire et il nous faut des énergies renouvelables. Et je crois que le contexte actuel montre bien les atouts du nucléaire, cette capacité à assurer une stabilité des coûts, à assurer une indépendance énergétique, on en reparlera certainement parce que j'ai envie de dire malheureusement c'est un sujet qui devient de plus en plus concret, et puis ces faibles émissions de CO2 qui seront évidemment un atout pour la lutte contre le changement climatique.
Vous parlez d'une stabilité des coûts, pourtant s'il n'y avait pas une mesure du gouvernement, les prix de l'électricité auraient dû augmenter au début de l'année prochaine de plus de 10%. Est-ce que c'est vraiment sûr et stable le nucléaire alors qu'on produit chez nous du nucléaire et logiquement assez pour nous fournir ?
Cette question des coûts et des prix de l'électricité en fait est une question assez complexe. Si je peux l'expliquer à nos auditeurs en une minute simplement.
Et de façon simple.
De façon simple, il se superpose deux aspects. Une dimension européenne et puis une dimension ensuite nationale dans chaque pays européen. En fait, à l'échelle européenne, tous les réseaux d'électricité sont interconnectés entre eux. C'est-à-dire d'une certaine façon, il s'établit des prix du marché de manière conjointe au niveau européen. Et évidemment, quand l'électricité augmente structurellement dans un pays, par exemple parce qu'on produit l'électricité à partir du gaz dans un pays et que le gaz coûte de plus en plus cher, ça se ressent un peu partout en Europe. Donc il y a une tendance générale à l'augmentation des coûts en Europe. Après, certains pays sont plus protégés que d'autres du fait de leurs outils de production électricité. En France, le parc nucléaire d'EDF, qui fonctionne bien, agit aussi comme une sorte de bouclier contre ces augmentations tarifaires. Effectivement, il y a des hausses de quelques pourcents, voire un peu plus
voilà,
en France,
mais si
vous, ça peut aller jusqu'à un peu plus que ça. Mais si vous comparez avec nos voisins européens, l'Italie, l'Espagne, là on parle sur un an de hausse de 30, 40, 50%, même une hausse de 100%, un doublement en Allemagne. Donc il y a un effet européen sur les prix, mais ensuite chaque pays est plus ou moins protégé. En France, le nucléaire protège.
Alors Xavier Ursa, on va être concret aussi sur ce plan qui a été présenté par le président de la République il y a quelques jours. Ce plan va surtout permettre de développer dans un premier temps des petits réacteurs nucléaires. On les appelle les SMR. Alors d'abord, c'est quoi ces petits réacteurs ?
Alors jusqu'à présent, la tendance générale dans le nucléaire, c'était plutôt de faire des gros réacteurs de forte puissance, pour une raison assez simple en fait, c'est que de manière évidente et tout à fait justifiée, les règles de sûreté vont à la hausse. Donc nous installons de plus en plus d'équipements pour garantir la sûreté dans les centrales et donc c'est un peu plus cher. Et pour éviter de trop monter les coûts, finalement, on augmente la taille des réacteurs. C'était l'idée générale. Là, il y a une autre idée en fait, qui a un certain engouement partout dans le monde, c'est de construire des plus petits réacteurs, mais alors avec l'idée d'en faire des dizaines, de manière finalement à retrouver les économies, non pas sur la taille du réacteur, mais sur le fait d'en faire plein, et donc d'avoir une usine à les fabriquer. Voilà. Et en fait, le SMR, c'est donc un réacteur de petite taille qu'il faudra fabriquer en de nombreux exemplaires.
Alors si on doit caricaturer, c'est un peu la Clio du nucléaire, d'une certaine manière, c'est le produit d'entrée de gamme qu'on doit réussir à dupliquer un petit peu partout. L'idée, c'est pas d'en avoir des centaines sur le sol français, l'idée c'est d'en installer quelques-uns chez nous, pour faire de la France un showroom, pour que derrière vous disiez aux clients étrangers « Venez voir là, ça marche chez nous et vous pouvez nous en acheter des dizaines ?»
Alors en effet, en France, notre idée est plutôt qu'il faut d'abord prolonger la durée d'exploitation du parc existant, qui fonctionne très bien, je le disais tout à l'heure. Nous pensons qu'il faut faire des nouveaux réacteurs de forte puissance, et nous avons fait une proposition à l'État dans ce sens. Et en effet, nous imaginons qu'il faudra installer au moins un réacteur de type SMR en France en complément. On pourra en faire plusieurs en complément. L'idée est plutôt d'adresser le marché international. Et nous visons en fait une taille de réacteur qui correspond à la taille de la plupart des centrales au charbon, au fioul, qui existent partout dans le monde, et qu'il faudra remplacer probablement très vite dans la décennie 2030-2040. Parce que, un, elles seront vieilles, et deux, parce que le changement climatique nécessitera d'enlever ces cheminées à CO2 que sont les centrales au charbon ou au fioul.
Mais ces nouveaux réacteurs, malgré...
Ils viendront les remplacer, à la limite sur le même site, en utilisant le même réseau électrique, vous voyez, donc on peut aller assez vite, finalement, pour décarboner un pays avec des SMR.
Mais là, on est au tout début du projet, là, on est dans la première phase d'étude.
Là, nous sommes dans le début du projet, en effet, dans la première phase d'étude, nous travaillons avec plusieurs partenaires, le CEA, nous travaillons aussi avec Technic Atom, avec Naval Group, et nous sommes en début de projet. Notre but est de pouvoir pouvoir avoir un premier chantier qui débute en France en 2030 à peu près.
Mais on est en retard déjà, parce qu'il y a déjà des SMR en Russie et les Américains et les Chinois sont largement plus en avance que nous. On peut rattraper notre retard et pas rater ce virage technologique ?
Il y a trois pays qui sont très actifs dans les SMR, à côté de nous, les États-Unis, la Chine et la Russie. Toujours les mêmes pays d'ailleurs qui sont en concurrence avec nous dans le nucléaire civil.
Et sauf que là on a pris un sacré retard quand même.
Et on a beaucoup accéléré. Et on a fait un choix qui est finalement de concevoir un SMR avec quelques innovations technologiques, mais à partir du retour d'expérience des réacteurs que nous avons déjà. Je vais citer un chiffre qui peut-être parlera à nos auditeurs. EDF, en France, avec son expérience sur les réacteurs en fonctionnement, a 2000 années réacteurs d'expérience. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions vu fonctionner un réacteur pendant 2000 ans avec toute l'expérience que nous avons. Nous avons emmagasiné cette expérience pour en tirer le meilleur, pour faire un petit réacteur qui arrivera à maturité assez vite.
Oui, mais donc comme nous le avons disait Elisabeth, pour le moment, ce réacteur, il est
en phase d'essai.
Voilà, il est grosso modo à l'échelle d'un papier pour le moment.
Et pour le moment, il est en phase d'étude.
Et quand on voit comment aujourd'hui on fabrique nos EPR, on peut se dire, oula, le plus dur commence là.
Vous savez, nous avons deux EPR qui fonctionnent en Chine.
Oui,
nous sommes partenaires
d'un projet. J'ai toujours arrêté parce qu'il y avait un petit problème.
Bon, c'est des choses qui arrivent sur ces réacteurs. Ces deux réacteurs ont fonctionné de manière extraordinaire dès leur première année de fonctionnement. Il faut aussi retenir ça. Vous savez, le réacteur Taishan 1, le premier qui a fonctionné, dès sa première année de fonctionnement, il a été le réacteur nucléaire dans le monde qui a produit le plus d'électricité. Nous en développons également avec des exigences de qualité très très élevées.
On a passé pensée à nos compétences pour fabriquer ces centrales, bon, puisqu'on a bien du mal à les faire.
C'est pas tellement qu'on a du mal à les faire, c'est qu'en fait, on s'est fixé sur Flamanville des exigences de qualité qui sont extraordinaires.
Tant 2023, prévu. Ça marche toujours pour l'ouverture de Flamanville.
2022, on chargera le combustible à Flamanville.
On chargera, c'est sûr.
On chargera le combustible à Flamanville. Toute l'équipe est mobilisée sur ce planning.